nous allons parler maintenant du manuel d'histoire critique sur cette musique de Fela. Fela, donc un des personnages que l'on retrouve dans une des illustrations de ce manuel d'histoire critique publié par Le Monde Diplomatique, également aux éditions Vuibert. Et le titre de ce morceau pourrait nous introduire à cette discussion, puisqu'il s'agit de zombies. Et d'une certaine façon, ce manuel fait ressusciter des personnages qui n'apparaissent peu ou qui apparaissent pas dans beaucoup de manuels d'histoire. Bonjour Séverine Yattard, vous nous présentez ce manuel ?
Je vous présente pas ce manuel, je reviens un petit peu sur l'histoire des manuels. Très rapidement, juste pour vous dire que le long règne du Malais Isaac va s'achever durant les années 60, que les manuels d'histoire vont radicalement changer de format, de fonction durant les années 80, le nombre de pages diminue, les frises chronologiques apparaissent, des synthèses de fin de chapitre dans les lexiques, des lexiques aussi. Il y a aussi des dossiers documentaires avec des mises au point critiques qui ouvrent sur des questionnements contemporains ou sur l'historiographie récente. Mais c'est aussi évidemment à ce moment-là, durant ces années 80, que la critique va prendre un caractère nettement politique.
La critique de ces manuels, justement.
Bien sûr, de ces manuels. Signe d'un embrasement médiatique, un article de l'Histoire, par exemple, titre en 83, « Faut-il brûler les manuels d'histoire ?» pour conclure quand même finalement par la négative. Une campagne d'opinion aussi menée l'année précédente par plusieurs journaux, de Minute au Figaro en passant par le journal La Croix, s'élève donc contre certains manuels et demandant la création d'une commission d'agrément de ces ouvrages. Alors, la PHG, l'Association des professeurs d'histoire et géographie, réagit en proclamant donc son attachement fondamental à la pluralité des manuels et puis à la liberté de jugement quand même des auteurs et des enseignants. Il faut dire que la critique des manuels a été exacerbée notamment par l'introduction de l'histoire du temps présent en terminale par les programmes de 1981 à 1982. L'enjeu mémoriel se fait aussi sentir au niveau des sujets sensibles comme Vichy, la guerre d'Algérie ou sur le thème de l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les polémiques resurgissent annuellement dès que l'on aborde des sujets comme par exemple la colonisation ou l'esclavage, et aussi les méthodologies de l'histoire enseignée. Et nous faisons bien sûr allusion à trois ouvrages notamment, dont l'objet finalement consistait à critiquer davantage l'école dans sa globalité, à énoncer que ces nouveaux manuels d'histoire divisaient une nation en communautés concurrentes, voire hostiles, que ces manuels empêchent les élèves de lycée de communier dans le culte des grands hommes et du roman national. Et nous pensons bien sûr à l'histoire fabriquée, ce qu'on ne vous a pas dit à l'école de Vincent Badré, paru en 2012, l'histoire de France interdite, pourquoi ne sommes-nous plus fiers de notre histoire de Dimitri Casali et ils ont tué l'histoire de Laurent Wetzel. Alors Benoît Bréville, peut-être pour commencer, on aura compris que vous proposez un altermanuel, à la fois peut-être pour répondre à ces ouvrages dont je viens de citer les intitulés, mais pas seulement, c'est aussi pour répondre à une sorte d'effervescence de publication d'une certaine histoire dans des magazines d'histoire, dans des émissions de radio, de télévision, et aussi un amoncellement notamment de biographies qu'on pourrait peut-être largement critiquer.
Oui, on a décidé de publier ce hors-série dans ce contexte d'effervescence éditoriale autour de l'histoire, et une effervescence éditoriale qui se fait surtout par des non-historiens, des non-historiens, pardon, qui sont invités sur des plateaux, des missions consacrées à l'histoire, qui sont également animées par des gens qui sont non-historiens, et qui s'invitent, qui se renvoient à l'ascenseur, etc., et qui sont assez omniprésents dans les médias. Et toutes ces personnes, donc je pense à Franck Ferrand, Laurent Deutsch, Stéphane Bern, Dimitri Casali, Jean Sevilla, qui ont des relais au Figaro Magazine, à Valeurs Actuelles, sur Europe 1 ou même sur le service public, eh bien appartiennent tous à une même tendance, disons, idéologique de l'histoire. Et cette tendance idéologique, c'est celle du roman national et de l'idée d'une histoire qui doit enchanter. Donc avec cette idée qu'il faut utiliser l'histoire pour faire, ce que vous disiez, pour faire aimer son pays, et donc en utilisant les grands hommes qui vont créer l'émerveillement, qui vont créer l'adhésion, etc., etc. Et donc, bon, c'est surtout cette histoire-là qui est représentée dans les médias. Sinon, évidemment, dans les médias, il y a aussi une histoire qui est utilisée dans des émissions qui ne sont pas consacrées à l'histoire. Donc, c'est l'usage, disons, un petit peu barbare des références historiques. On peut penser, par exemple, aux accords de Munich, où la moindre chose, aujourd'hui, peut être comparée aux accords de Munich. Les gens qui s'opposaient à l'intervention en Syrie, par exemple, l'an dernier, étaient qualifiés de Munichois. Aux États-Unis, on a qualifié de Munichois également l'accord sur le nucléaire iranien. Donc il y a ce genre de comparaison historique un petit peu sauvage.
L'usage historique du passé.
Voilà, l'usage historique du passé, sauvage, à travers la comparaison qui permet de justifier des politiques présentes. Et donc c'est à travers cette manipulation de l'histoire Et c'est pour la contrée qu'on a décidé de publier ce hors-série.
Laurence de Kock, vous êtes enseignante, vous êtes professeure d'histoire-géographie au lycée Joliot-Curie de Nanterre. Vous avez coécrit justement un livre sur la façon dont les manuels et l'école avaient transmis l'histoire, et en particulier ça s'appelait La fabrique scolaire de l'histoire. Vous êtes également fondatrice de l'association Aggiornamento.org, qui est une association de professeurs d'histoire-géographie. Comment vous êtes introduite dans ce manuel? Comment vous en êtes venue à travailler pour ce manuel et pourquoi travailler avec aussi un journal, des journalistes? Parce qu'en fait, il y a des historiens, mais il y a des... Benoît Bréville, vous avez fait des études d'histoire. Il y a des non-historiens qui participent à ce manuel également.
Ça s'est fait de façon très simple. Ce sont vraiment des effets de réseau. C'est-à-dire que dans le champ des historiens critiques ou du monde critique en général, on se connaît un petit peu tous. Et donc, on avait déjà l'année dernière sorti une double page sur les manuels scolaires dans le Diplo en septembre 2013. Double page dans laquelle j'avais écrit un petit papier aussi, justement, précisément sur la question des manuels et sur, vous avez eu raison de le rappeler, sur ces objets un peu hybrides que sont devenus les manuels scolaires. Et puis, de fil en aiguille, on est resté en contact. Et puis, l'idée du manuel critique, voilà.
C'est quoi l'histoire critique? Comment on pourrait, pour nos auditeurs qui ne voient pas ce à quoi ça fait référence, c'est quoi l'histoire critique?
L'histoire critique, c'est une histoire qui s'attache à déconstruire des allants de soi. Donc à déconstruire une sorte de vulgate, la vulgate dont parlait Benoît tout à l'heure, et qui réinterroge sans arrêt les interprétations. C'est-à-dire que ce n'est pas évidemment une histoire qui nie les faits ils sont là, mais c'est une histoire qui considère qu'une interprétation n'est jamais définitive, qu'elle s'interroge et que interroger les interprétations historiques, c'est faire jaillir des enjeux, qui sont des enjeux politiques, hein, il faut appeler un chat, et dont il faut se saisir au présent pour
C'est forcément une histoire de gauche ?
Ça, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Oui, moi, je pense que c'est forcément une histoire de gauche. Parce que c'est une histoire qui admet que ça puisse bouleverser l'ordre social dominant. Voilà. Et ça, pour moi, c'est typiquement à gauche.
Juste puisqu'on est dans cet questionnement sur les manuels, là, cette fabrication des manuels d'histoire aujourd'hui. Alors, comment ça se passe? Moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même au moins une dizaine de personnes qui travaillaient, des professeurs de collège à des professeurs d'université, à des inspecteurs de pédagogie. Alors, est-ce que ça se passe réellement comme ça? Alors, ce seraient vos collègues, hein, finalement, qui écrivent ces manuels scolaires, ou alors il y a une sorte d'emprise de l'édition qui fait que ses collègues, ses auteurs ne sont pas totalement libres d'écrire un manuel comme ils le souhaitent, et un manuel critique en l'occurrence.
Alors, en fait, ça dépend vraiment des maisons d'édition. C'est-à-dire qu'il y a un vrai marché de l'édition scolaire et toutes les maisons d'édition n'ont pas forcément la même politique. Donc, il y a effectivement une politique éditoriale, donc ça, indéniablement. Il n'y a pas de droit de regard direct du ministère sur les manuels. Il n'y a pas de validation, ça vous l'avez rappelé, c'est important. En revanche, il y a des réunions régulières entre l'inspection générale et les éditeurs pour que l'inspection générale explicite un petit peu l'angle sous lequel elle a écrit ses nouveaux programmes. Et puis ensuite, il y a une équipe qui est constituée par un directeur de collection. Donc, pareil, par effet de connaissance, par parfois, effectivement, positionnement politique, etc. Et puis, on a liberté totale d'écrire notre interprétation du programme. Mais ensuite, le papier qu'on écrit passe, effectivement, sous le crible du directeur éditorial, de la maison d'édition, etc. Voilà, donc il y a des droits de regard, il y a des arbitrages, comme dans n'importe quel livre d'ailleurs, hein, l'éditeur participe toujours à l'écriture d'un livre, mais il n'y a pas de politisation directe, de mainmise du ministère sur les manuels.
Alors, qui choisit son manuel après?
L'enseignant? Alors ce sont les enseignants dans les établissements. Les équipes pédagogiques,
voilà. Région, comment ça se passe?
Non, les équipes pédagogiques par établissement choisissent le manuel avec lequel ils veulent travailler. Et ensuite, c'est la région qui finance l'achat des manuels.
Alors, un manuel comme celui-ci, selon vous, Laurence de Kock et Benoît Bréville, il a pour objet de remplacer les manuels de la même période, la période, mettons, contemporaine, ce qu'on appelle la période contemporaine, depuis le début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, ou de compléter pour les professeurs et pour les élèves les manuels existants, Benoît Bréville?
Je dirais qu'il y a pour but de le compléter, parce que dans les manuels existants, il y a tout un appareil pédagogique de corrigés de dissertation, d'exercices, etc., que nous, en tant que mon diplôme, on n'a pas fait parce que ce n'est pas notre spécialité et que, somme toute, c'est plutôt bien fait dans les autres manuels. Donc, ça vient vraiment en complément. Mais j'ajouterais à ce que Laurence a dit tout de même sur le processus de choix des manuels par les professeurs, qu'il y a quand même un effet pervers, parce qu'effectivement, c'est les professeurs qui choisissent en fin d'année le manuel qu'ils vont utiliser l'année d'après. Mais donc, du coup, ça introduit un petit peu une sorte de règne du consensus, au sens où le manuel qui doit arriver et qui doit être choisi, eh bien, doit pas déplaire à l'équipe pédagogique qui va le choisir éventuellement. Donc, s'il est jugé trop à droite ou s'il est jugé trop à gauche, eh bien, il peut se fermer une équipe pédagogique. Donc, quand on lit les manuels aujourd'hui, c'est pas tellement leur dimension idéologique qui ressort particulièrement, mais c'est leur dimension consensuelle, au sens où tout est énoncé sur le mode du constat, sur le mode de la mise en équivalence. Donc, on va vous dire, d'accord, le FLN a fait des attentats, mais de l'autre côté, la France a torturé, mais le FLN a fait des attentats. On va vous dire la colonisation, ça a construit des routes, mais ça aboutit à des massacres. Et donc, il y a une sorte de mise en équivalence de tout et édicté sur le mode du constat assez plat qui fait ce ton consensuel.
Alors, pour rentrer dans le cœur d'un manuel comme celui-ci, Laurence de Kock, on a donc des grands chapitres, industrialisation, colonisation, entrée des masses en politique, avec à chaque fois, en ouverture de ce chapitre, la critique d'une idée reçue, généralement présente dans d'autres manuels ou dans d'autres façons de voir l'histoire, et ensuite des chapitres qui choisissent. On peut dire que c'est un travail de choix dans un immense passé. Choisir par exemple de parler du Paraguay dans les guerres du Chaco et donc de cette région du monde dont on parle nulle part ailleurs, c'est un choix éditorial parce que cela correspond à une vision de gauche là aussi de l'idée que l'Empire britannique a forcé ses belligérants du cône sud entre guillemets à arrêter une expérience particulière dans le Paraguay du 19e siècle. C'est ce que nous ont raconté Luc Capdevila et d'autres dans leurs travaux historiques au milieu des années 2000.
Le choix du sommaire, il a été fait assez collectivement. On en a beaucoup discuté en amont. Le Paraguay dont vous parlez, alors c'est un choix
exemple,
qui est... Oui, mais c'est un exemple particulièrement important parce que dans ce manuel, il y a aussi des éléments dont on ne parle pas du tout dans les programmes. Et en particulier cette région. Alors, s'il y a bien une énorme lacune dans les programmes scolaires, c'est bien l'absence de tout ce qui concerne l'Amérique latine qui, à mon sens, a un poids particulièrement important dans le monde aujourd'hui. Donc oui, on a fait le sommaire collectivement et ensuite on s'est emparé de questions qui faisaient généralement l'objet de débats historiographiques assez importants et débats historiographiques qui nous semblaient très importants de relayer et puis de questions qui étaient absentes et qui relèvent selon nous d'une géopolitique du passé particulièrement sensible et importante pour comprendre le monde d'aujourd'hui.
Et Benoît Bréville, des interprétations aussi différentes. Vous n'interprétez pas la révolution industrielle de la même façon. Vous êtes des lecteurs de Kenneth Pomeranz, évidemment, et vous dites tout compte fait, c'est la force humaine, le travail des hommes et des animaux qui est plus importante que l'invention de la vapeur dans le début de la révolution industrielle. Vous tentez de remettre aussi d'un autre côté, de regarder ce qui se passe dans les usines. Ça n'est pas simplement une classe ouvrière qui serait submergée par un patronat, mais il y a des insurrections, il y a de la subordination, il y a du coulage dans les usines. Et donc, vous allez regarder de ce côté-là pour dire qu'il y a une autre histoire à raconter, par exemple, de cette fin du 19e siècle et de la classe ouvrière au 19e siècle, Benoît Bréville.
Oui, c'est ça. En élaborant le sommaire, on a essayé tout à la fois de démonter un certain nombre d'idées reçues sur les différentes périodes de l'histoire contemporaine. On a essayé de combler les manques, donc c'est ce que disait Laurent, sur les choses qui ne sont pas abordées, donc les continents qui ne sont pas abordés, également les thématiques qui ne sont pas abordées. Et sur les thématiques qui sont abordées, on a essayé de les traiter différemment, au sens où on a essayé de réintroduire l'idée que l'histoire n'était pas quelque chose de naturel, où les événements découlaient d'une sorte de naturalisation des événements historiques.
C'est pas Sarajevo qui fait la Première Guerre mondiale.
Voilà, mais c'est des forces sociales, des intérêts divergents qui s'opposent, qui profitent des événements de l'histoire dont certains groupes sociaux pâtissent de l'évolution historique, et c'est ce qu'on essayait de mettre en avant.
Est-ce qu'il n'y a pas dans cette volonté un peu systématique justement de contrer les idées reçues des autres d'une certaine façon l'obligation à un moment ou à un autre d'aller un peu loin dans la radicalisation des positions, Laurence de Kock, c'est-à-dire de se dire au bout du compte il faut absolument être critique, donc il faut absolument que chacun des chapitres tel qu'il est développé par disons une vulgate habituelle habituellement acceptée par tous ou presque, on va trouver une opposition à cette vulgate-là.
Là, je crois qu'il faut lire le manuel pour voir que ce n'est pas de l'opposition systématique. Il y a des choses qui sont reprises et qui sont relativement consensuelles. Donc non, ce qui est repris, en tout cas dans l'ouverture des chapitres sur les idées reçues, c'est vraiment une manière de dire attention, la vulgate, moi ce que j'appelle la vulgate, qui n'est pas simplement la vulgate scolaire, qui est la vulgate en général, c'est
médiatique,
dans la façon dont l'histoire, dont les savoirs historiques circulent dans l'espace public. La vulgate, ça s'interroge. Et puis surtout, il y a des travaux historiques récents qui justement s'attachent à déconstruire ces idées-là. Voilà. Après, dans ce manuel, vous trouverez des choses qui sont relativement consensuelles, que l'on trouve aussi dans les manuels scolaires. Je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait Benoît que ce manuel, c'est aussi une manière d'enchanter le monde. Sauf que c'est une autre manière d'enchanter le monde que celle d'un Casali ou d'un Wetzel ou d'un Badré. C'est-à-dire que pour nous, la question, c'est pas de savoir s'il faut être fier de son pays parce que son pays a été une grande puissance de tout temps. Depuis Vercingétorix. La question, c'est de restituer une place aux acteurs dans le pays et aux acteurs dans la marche politique et dans la marche de l'histoire. Et ce manuel fait ça. C'est-à-dire que, aussi, une des grandes différences de ce manuel par rapport éventuellement à d'autres, c'est la place qui est accordée à l'histoire sociale et à l'histoire économique.
Benoît Bréville, on a l'impression effectivement en lisant ce manuel qu'on ouvre des fenêtres, surtout des fenêtres géographiques d'une certaine façon, parce qu'en fait ce que disait tout à l'heure Laurence de Coq, c'est que effectivement on allait s'intéresser à des pays ou à des régions du monde qui étaient généralement négligées dans la grande histoire telle qu'on la raconte des deux derniers siècles, et là effectivement il y a cette dimension effectivement d'aller voir dans des endroits qui sont un peu oubliés en négligeant peut-être des endroits qui sont déjà traités par d'autres ce qui s'est passé véritablement au 19e et 20e siècle.
Oui, à la fois l'ouverture géographique d'aller sur des continents qui ne sont pas explorés habituellement, et je pense aussi une sorte d'ouverture historique, au sens où on essaie de donner de la profondeur historique à un certain nombre d'événements. Je pense, à la création d'Israël, par exemple, qui est systématiquement mentionnée dans les manuels comme une conséquence de la Seconde Guerre mondiale et du génocide juif. Et nous, on essaie de montrer, par exemple, que les événements ont des racines plus lointaines, que c'est également la conséquence de la déclaration de Balfour 1917, que l'immigration juive en Palestine...
C'est généralement dit dans les autres manuels, quand même.
Non. Pas dans tous du tout, malheureusement. Et puis, par exemple, là, que la décolonisation commence avec les révoltes des années 20 en Syrie, en Inde, etc. Et que tout n'a pas été déclenché à partir de 1945.
Séverine Yatta.
Juste, on voit bien qu'avec cet intermanuel et cette question de la vulgarisation de l'histoire, c'est toujours le même problème qui se pose. Vous allez me dire, Laurence de Coq, c'est il y a une certaine lenteur à ce que les recherches les plus récentes, les plus novatrices, soient transmises dans le public, à moins que vous aussi, vous vous positionniez à travers ce manuel contre une certaine école aussi historique, universitaire. C'est une question à double...
Oui, c'est une question compliquée parce que, en fait, en tant qu'historien et en tant qu'enseignant, ça nous interroge les pesanteurs de la vision de l'histoire, de la vision sociale de l'histoire, voilà, de la manière dont ça circule dans les médias, dans le monde éditorial. Ça nous interroge, on n'a pas de solution, mais effectivement, je pense qu'il y a urgence à trouver des canaux pour que se diffuse justement cette vision plus critique. Mais j'ai pas de réponse à apporter à ça. Sur le plan du rapport de force, on a, 500 000 ouvrages de Jean Sévillia vendus, et puis ceux qui apportent une vision un petit peu différente, on plafonne à 3 000.
Benoît Bréville, alors une des particularités du manuel, c'est aussi de mettre des sortes de petits bêtisiers de loin en loin, c'est-à-dire de reprendre d'anciens manuels d'histoire ou des manuels d'autres pays, par exemple, et de montrer ce qui est dit dans ces manuels, soit dans le temps, ça nous apparaît étrange, soit dans l'espace, puisque ça peut être un manuel roumain d'aujourd'hui ou un manuel d'un autre pays, et ce qu'il raconte sur l'histoire de son pays, pour montrer effectivement qu'il y a des interprétations différentes de l'histoire.
Oui, effectivement, au-delà d'apporter une sorte de savoir de base critique sur l'histoire, on essaie de faire, disons, réfléchir le lecteur en essayant de montrer... que l'histoire est une construction, et bien souvent une construction qui varie à la fois selon les pays et selon les périodes. Et pour ça, on est effectivement allé chercher dans les manuels des autres pays pour voir comment, l'URSS décrit le pacte germano-soviétique dans ses colonnes, comment au Nicaragua, aux États-Unis, on parle de la doctrine Monroe, et on se rend compte que les analyses historiques évoluent selon les continents, mais également selon les périodes, et que l'analyse de la guerre d'Espagne, par exemple, des causes de la guerre civile espagnole, évidemment, n'était pas la même sous Franco. Quelques années après la mort de Franco et aujourd'hui, où en France, dans les manuels français, sur le déclenchement de la Première Guerre mondiale, etc.
Alors, vous allez peut-être dire que je suis un petit peu polar, mais je trouve que je n'ai pas vu du tout mentionner le génocide du Rwanda, les Tutsis du Rwanda, sauf dans une carte où il est mentionné au milieu d'autres grands massacres de masse. Je trouve que c'est extrêmement dommage pour ma part, parce que c'est quand même le deuxième génocide du XXe siècle. Pourquoi n'y est-il pas ? J'ai pas compris.
Mais il est mentionné dans un des bêtisiers, justement, il est mentionné en creux à partir de la manière dont il est traité dans les manuels scolaires usuellement.
Et puis, si je peux aller un peu plus loin dans une critique du manuel critique, vous attaquez l'idée reçue que le communisme, on a vu ce que ça a donné, mais si c'est pour écrire que les leçons à tirer des 7 décennies de communisme ne sont pas que négatives, je me dis, tout compte fait, ça me fait penser à une loi de 2005 où les leçons de la colonisation devaient être plus positives. Et je me dis, voilà, on est quand même dans une vision qui n'est pas très éloignée de ce que j'ai entendu et que nous avons combattu ici à la Fabrique de l'Histoire, l'instrumentalisation de ce passé. Mais moi, voilà, je dois être trop social-démocrate pour le manuel en question.
On n'est pas un ministère et du coup, on n'édicte pas des programmes. Donc ensuite, nous, on ne fait pas de recommandations aux profs de parler de manière positive ou négative du communisme. On fait le constat qu'il abordait systématiquement sous le même angle, en mettant en avant les mêmes méfaits.
Laurence de Coq.
Oui, non, je crois que... Mais c'est très bien qu'il y ait à cette table des sociodémocrates et d'autres qui le sont moins.
Généralement, ça se termine
mal. Mais c'est un peu ce qui... Mais là, ça va bien se terminer. C'est le matin, il est tôt encore. Mais c'est un peu ce qui fait la saveur de cet ouvrage aussi. C'est-à-dire que le but, c'est quand même aussi de relégitimer le débat, y compris le débat à l'école. Voilà. Et donc, quelqu'un, un enseignant ou un élève, qui, moi, me dirait mais finalement, le bilan du communisme n'est peut-être pas si noir. Ou alors, finalement, le bilan de la colonisation, je fais exprès d'aller à l'encontre de ça, n'est finalement pas si noir, je trouverais que c'est très encourageant, parce que ça veut dire que l'esprit critique réintègre les murs de l'école. Or aujourd'hui, et c'est aussi l'effet du consensus, pas simplement des manuels, mais des programmes et puis de l'espace scolaire en général, aujourd'hui le débat s'absente de l'école, ou alors
pourquoi
il est extrêmement policé. Pour tout un tas de raisons qui sont liées à des dispositifs, qui sont liées à une course contre la montre pour faire des programmes, qui sont liées à des rapports d'autorité entre enseignants et élèves, ça on pourrait en parler des heures, mais du coup ça explique aussi que le discours critique, y compris dans sa phase, et surtout dans sa phase la plus dangereuse, et je pense par exemple au discours complotiste, il a beaucoup de succès. Il a beaucoup de succès chez les jeunes et je suis certaine que réhabiliter le débat critique à l'intérieur de l'école, c'est aussi lutter contre ça.
Merci. Un petit mot, puisque vous avez la parole, c'est très court, très bref. Une grosse polémique a agité le milieu historien et va continuer à l'agiter jusqu'au rendez-vous de l'histoire de Blois avec une tribune, on en a parlé au tout début à la rentrée dans la Fabrique de l'Histoire en ouverture, une tribune donc d'Édouard Louis et de Geoffroy de la Gannerie protestant contre la présence à Blois en ouverture en leçon inaugurale de Marcel Gaucher. Vous dirigez Aggiornamento, vous êtes avec d'autres parmi ceux qui ont fondé Aggiornamento.org, cette association d'historiens et de géographes autour de l'enseignement de l'histoire. Vous avez fait un texte pour dire votre surprise, votre soutien aussi d'une certaine façon à cette tribune qui accusait Marcel Gaucher, les rendez-vous de l'histoire, de faire venir Marcel Gaucher. Qu'est-ce qu'on peut en dire en deux mots, Laurence de Coq, c'est très bref, mais...
En deux mots, on a fait cette tribune parce que il nous semblait inconcevable qu'il y ait une telle levée de boucliers indignée face à une tribune qui pose une vraie question, qui est celle de savoir le fait d'inviter Marcel Gaucher pour inaugurer finalement ce qui correspond à une rencontre intellectuelle va de soi. Voilà. C'est une question qui se pose. Elle n'est pas illégitime, cette question, et on a été assez outrés par cette espèce de cri d'indignation consensuelle du monde des historiens, y compris sur le mode « ce ne sont pas des historiens, donc que viennent-ils faire chez nous ?» Voilà. Et nous, on a eu envie de dire « il y a des historiens qui considèrent que ça ne va pas de soi ». Que de tels rendez-vous soient inaugurés par une figure emblématique d'un champ intellectuel particulier qu'il faut interroger.
Et rassurez-nous, vous serez à Blois.
Ah oui.
Avec en particulier le manuel d'histoire critique qu'on peut trouver en kiosque, donc Benoît Bréville,
jusqu'à fin novembre.
Voilà. Et on trouve également en librairie puisqu'il est publié en même temps par les éditions Vuibert.
Exactement.
Ça et donc il sera plus pérenne avec cette édition en librairie. Merci encore à tous les deux, Laurence de Coq et Benoît Bréville, d'être venus présenter ce manuel d'histoire critique.